Investir, les experts de l'IMO.
Les experts de l'IMO, comme tous les vendredis, une demi-heure pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, on va faire du neuf. Bonjour Marie Cardoroy.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Vous êtes venue en studio accompagnée d'une part de Guillaume Hérard, notre confrère immobilier du Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Un habitué du plateau, et ce n'est pas parce que c'est la fin de la saison, comme on dit à la télé et à la radio, qu'on ne peut pas accueillir des nouveaux. On va donc bizuter Céline Colletto ce matin. Bonjour Céline.
Bonjour à tous, merci de l'accueil.
Vous êtes journaliste sur une institution qui porte très bien son nom et qui va tout à fait nous éclairer aujourd'hui. Trouver unlogementneuf.com. Voilà, on sait qu'avec vous, on va parler du neuf, n'est-ce pas, chère Marie?
Exactement, mais d'abord, parce que ça concerne et le neuf et l'ancien, je pensais qu'on pourrait faire un petit point crédit. On en a parlé avec Antoine Larigauderie sur les marchés, on voit que les taux d'intérêt de la dette française sont quand même pour le moins sous tension, compte tenu du contexte évidemment politique. Je vous regarde tous les deux. On en est où d'abord sur les taux d'intérêt? On disait qu'ils baissaient, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Et quelles sont vos perspectives, Guillaume, Céline, lequel veut commencer?
Je vais commencer. C'est vrai que pour j'ai envie de commencer par des bonnes nouvelles. Pour le coup, c'est vrai que le contexte est assez compliqué. Les taux continuent de baisser. On interroge les banques et les courtiers qui nous disent ok, d'accord, il y a un contexte politique qui est crispé, mais les banques continuent et même frappent à la porte des agents pour dire donnez-nous des dossiers.
Ouais.
On a eu une bonne petite nouvelle cette semaine sur le pouvoir d'achat immobilier. Meilleur taux nous dit que ces 6 derniers mois, le pouvoir d'achat, donc en gros, c'est la surface que vous pouvez acheter en mètre carré selon la capacité d'emprunt, selon le crédit, le taux de crédit, a augmenté de 3 mètres carrés. En France, vous me direz, c'est pas énorme. Ouais, sauf que entre ces 5 dernières années, ça avait augmenté d'une vingtaine, ça avait baissé d'une vingtaine de mètres carrés.
Oui, parce qu'on a une conjonction d'éléments depuis le début de l'année qui est une baisse des taux d'intérêt, qu'on le veuille ou non, même si c'est pas autant que certains l'espéraient, mais on a quand même perdu, je crois, en moyenne 0,5 point, ce qui est quand même pas négligeable. Et puis on a cette petite baisse de prix quand même.
Exactement. Donc du coup, on se retrouve avec des villes qui voient le pouvoir d'achat augmente de 4 à 5 mètres carrés. Je peux citer Saint-Étienne, Le Havre, mais aussi des villes comme Lille, Strasbourg, Toulouse. Donc c'est vraiment général. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu une petite crise politique, petite.
Est-ce que là, on regarde dans le rétroviseur?
Voilà, exactement. Et c'est demain, c'est dans 2 jours, on aura le premier tour. Et aujourd'hui, on nous dit, pour l'instant, pas d'affolement, mais quid dans une semaine, selon les résultats qu'on nous annonce.
Alors, du coup, dans 2 semaines? Enfin, du coup, 10 jours, on va dire.
Ouais, voilà, 10 jours, exactement.
Oui, bien sûr, mais dès le premier tour, il peut se passer aussi en fonction des résultats.
Et on l'a vu d'ailleurs, après les élections européennes, les 2 jours qui ont suivi, l'OAT, qui était autour de 3%, est passé à 3,3%. Si ce scénario se répète, aujourd'hui, on nous dit, tant que les taux... l'OAT, donc, on rappelle, c'est le taux auquel l'État emprunte et sur lequel se basent les banques pour fixer leur taux de crédit. Tant qu'il n'a pas atteint 3,5, en tout cas c'est ce que les banques nous disent, pour l'instant, on n'augmente pas nos taux. On est capable de digérer cette hausse d'OAT. Si on arrive à cette OAT à 3,5, là, il y a un risque de hausse des taux de crédit.
Percevez comment justement ce marché du crédit immobilier qui reste l'alpha et l'oméga qu'on souhaite acheter dans l'ancien comme dans le neuf, est-ce que vous pensez sincèrement que ce contexte électoral peut vraiment aller finalement à l'encontre de toutes les prévisions des courtiers et des spécialistes de l'IMO qui nous disaient qu'on allait continuer à baisser jusqu'à la fin de l'année au moins? Est-ce que vous pensez que ça peut remettre en cause ou que c'est juste une espèce de parenthèse possible?
Ça risque de pas être une parenthèse, parce que déjà dès l'annonce surprise de la dissolution, le lendemain, les taux OAT ont augmenté en France et pas en Allemagne. Ouais. Et ils ont encore augmenté là dernièrement. Donc il y a eu l'effet un peu surprise dès le lendemain matin, et puis à nouveau là cette semaine. Donc si ça augmente pas en Allemagne, ça stabilise et chez nous ça augmente, c'est clairement il y a un effet. Après, est-ce que les banques vont répercuter sur les taux du particulier ce qu'ils vont avoir eux pour emprunter de l'argent? C'est ça, parce qu'en fait, comme il y a moins d'acheteurs, ils sont aussi à la course au dossier.
Mais est-ce que, par exemple, là, Céline, on pourrait dire à nos auditeurs et téléspectateurs, si vous avez un projet, dépêchez-vous un tout petit peu, parce que quand même cette incertitude...
Nous, c'est ce qu'on a ressenti sur nos sites dès le lendemain, en fait, paradoxalement. C'est que le lendemain, on a eu un frémissement. Alors, on est sur des volumes très faibles en ce moment, il faut pas se le cacher, dans le neuf, c'est compliqué. Mais ça n'empêche pas que le lendemain, on a eu un petit frémissement. Et parce qu'on a commencé à dire, les taux vont remonter. Alors, est-ce que certains ne se sont pas dit, allez, c'est peut-être la fenêtre de tir?
Est-ce qu'on peut avoir une logique intraday, un peu comme les traders, si on est investisseur immobilier actuellement, et se dire, ok, là, j'ai une fenêtre de tir de 10 jours, j'y vais.
C'est quand même court, parce qu'il faut trouver le bon produit, etc. Mais de toute façon, notamment dans le neuf, il y a de quoi, il y a des opportunités à saisir. Il y a des queues de programmes, il y a des offres commerciales à saisir. Les promoteurs, effectivement, ont des choses à vendre en ce moment. Donc, il faut en profiter. Il y a des frais de notaire offerts, mais on nous parle même de garages et de places de stationnement offerts. Donc, oui, il faut en profiter. Enfin, moi, je pense que c'est le bon moment. Et puis, il y a la fenêtre de tir du Pinel aussi, s'arrêter à la fin de l'année. Et ça, à mon avis, c'est oui, il faut en profiter parce qu'on sait justement, on ne sait pas trop ce que sera l'avenir.
Donc justement, dans cette attitude un tout petit peu, alors là, Céline nous disait qu'effectivement, ils avaient vu quand même un petit sursaut de recherche à l'annonce de la dissolution. Il y a d'autres choses qui émergent face à cette incertitude politique et cette crainte pour l'après. C'est vous, Guillaume, au Figaro, qui avez relevé ces fameuses clauses un peu nouvelles qu'on voit apparaître sur les actes de vente. C'est quoi exactement?
Pour ceux qu'on connu, en fait, c'était ce qui s'était passé en 1981.
Moi, j'étais pas née.
Voilà. Mais on va rappeler, et je pense que certains auditeurs peut-être s'en souviendront, les fameuses chars russes qui étaient censés défiler à Paris. Et donc, du coup, les propriétaires en panique disent bon, moi, je vais prendre mes affaires et je vais aller en Suisse ou je ne sais où. Aujourd'hui, il y a une espèce de panique qui peut y avoir chez certains acheteurs, propriétaires. En gros, c'est un notaire qui raconte avoir été contacté par un client qui dit que en 81 il a mis une clause dans la promesse de vente pour dire si jamais aujourd'hui le nouveau Front populaire
à l'époque c'était François Mitterrand,
à l'époque c'était François Mitterrand, du coup je veux que la transaction soit annulée. Alors se pose la question déjà, est-ce que c'est légal?
Question qu'on vous pose, Guillaume, est-ce que c'est légal?
Je vais employer, mais je vais rapidement l'expliquer, un terme un peu technique. Une clause suspensive ne doit pas être potestative.
Comment ?
Est-ce qu'on peut l'épeler pour ceux qui nous écoutent à la radio ?
Elle ne doit pas dépendre ni du vendeur, ni de l'acheteur. Prenons l'exemple du crédit. Ouais. Une clause suspensive d'obtention de crédit. Même si l'acheteur doit monter un dossier solide, donc il y a une forme de responsabilité de sa part. C'est quand même la banque qui décide du taux. Bon, et la même chose. Ok, d'accord, le vendeur et l'acheteur sont des électeurs, donc ils ont une voix, mais c'est deux voix qui sont diluées parmi des millions. Donc on peut pas considérer que dans une élection politique.
Donc on peut. Êtes en train de dire, Guillaume, qu'on peut effectivement légalement faire figurer une condition suspensive.
À condition, ça c'est très important, évidemment, que le vendeur accepte, parce que si le vendeur n'est pas d'accord, cette clause est considérée comme nulle. Une clause suspensive n'est légale que si
elle est acceptée par les deux parties.
Il
accepte à partir du moment où il signe.
À partir du moment où j'ai recontacté du coup le notaire. Il se trouve que en fait, la transaction est en stand-by. J'ai eu également...
En attente, bon français, parce que vous ne pouvez pas nous apprendre le mot potestatif et derrière dire en stand-by.
En attente. Et donc, d'autres réseaux, j'en citerai un, notamment Barnes, qui nous a dit qu'à Marseille, il y a également deux acheteurs qui ont demandé à ce que cette clause soit insérée. Donc, on sent que ça reste très isolé, des cas isolés, mais on sent quand même qu'il y a une forme peut-être de panique chez certains.
Le profil des acheteurs, je pense, vous citez Barnes, donc on imagine que c'est des biens quand même plutôt type...
Généralement, c'est des profils de... Alors, ils ne nous l'ont pas dit comme ça, mais bon, on va dire que c'est des...
Est-ce que c'est des étrangers?
Non, c'est des Français, c'est des seniors qui ont du patrimoine. Voilà. Après, ils nous ont pas dit est-ce que c'est la résidence principale ou la résidence secondaire. Non, voilà, c'est à peu près le profil.
Mais on est plutôt sur un marché haut de gamme, c'est-à-dire que le commun des mortels ne se pose pas forcément la question de mettre une clause suspensive en fonction du résultat des élections.
Alors, certains, au sein des notaires, il y a quand même certains qui vont vous dire est-ce qu'on doit répondre à, je les cite, répondre aux caprices fantasques des gens.
Exactement.
Alors, c'est vrai que d'une certaine manière, il y a caprice et caprice. Maintenant, chacun se fera son idée. Est-ce que l'arrivée d'un parti extrême au pouvoir est considérée comme un caprice? Enfin, d'anticiper cette arrivée, est-ce que c'est un caprice ou pas? Ça, c'est à chacun de se faire son opinion.
Est-ce que caprice, c'est le bon mot? Si on reprend le couple dont vous parlez, enfin les gens dont vous parlez qui sont des retraités, peut-être qui ont épargné toute leur vie pour acheter le bien où ils vont finir leur vie, c'est pas vraiment un caprice. C'est quand même la réalisation d'une vie.
Oui. Ouais. Alors après, il faudra qu'on regarde aussi dans cette émission si véritablement, quels que soient les blocs politiques en présence, ça pourrait bouleverser la donne. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a un vrai sujet. Il faut justifier la question de l'inquiétude aussi.
Parlons du neuf.
Parlons du neuf, parce que quand même, on a Céline, et moi, ça me fait tellement plaisir. Bon, là, du coup, on va un peu déchanter. On en est où de ce marché du neuf qu'on a beaucoup dit, j'ai envie de dire moribond, mais bon.
Vous, surtout.
Non, mais je ne suis pas la seule, je pense qu'on va le voir avec Céline. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Hier, il y avait le congrès de la Fédération des promoteurs immobiliers qui se tenait près de Lille.
Et vous y étiez?
J'y étais. J'ai mené l'enquête et effectivement, c'était plutôt morose, comme on peut s'en douter. De toute façon, le thème du congrès, ça s'appelait déjà urgence logement, et ça avant même l'annonce de la dissolution surprise. Donc forcément, l'état d'esprit n'était pas au beau fixe avant de commencer. Autant vous dire que c'était très compliqué hier, dans le sens où la demande a disparu. Faut quand même rappeler que les besoins sont toujours là. On a toujours besoin de loger les Français. Donc, y a clairement une question de confiance qui se pose pour que, notamment, des investisseurs reviennent sur le marché. Faut rappeler le contexte. L'année 2023, c'était la pire année qu'a connue la promotion immobilière depuis que les statistiques existent. Et en ce début d'année, sur les 5 premiers mois de l'année, on a déjà perdu 25% de ventes encore en plus par rapport à l'année dernière qui était déjà catastrophique. Donc forcément, les promoteurs étaient plus qu'inquiets.
Là, justement, par rapport à cette inquiétude, je voudrais parler, alors évidemment, de l'absence d'offres, de fait aussi, de la difficulté de trouver une demande finançable. Maintenant, on en est où de tous les corps de métiers liés à ce logement neuf? Vous parliez des promoteurs. Où est-ce qu'on en est du côté de la santé économique des promoteurs et de tous les métiers qui sont liés finalement à la construction de logements neufs, je pense aux artisans, mais pas que. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce qu'on a beaucoup dit que c'était quand même un risque énorme, considérable sur l'emploi en France.
C'est le cas, puisque les promoteurs, certains vous annoncent, déjà il y a des PSE, des plans de sauvegarde de l'emploi qui ont été lancés chez la plupart des grands promoteurs
nationaux. C'est ça, même les géants ne sont pas du tout épargnés, quoi.
Clairement non, peut-être plus que d'autres qui ont peut-être plus des petites structures ont peut-être les reins peut-être paradoxalement plus solides. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que on nous annonce entre 10 voire 35% de réduction des effectifs chez les promoteurs. Donc 10% c'est le minimum, et puis ça peut aller beaucoup plus, sans parler de ceux qui ont mis déjà la clé sous la porte. Alors finalement, pas tant que ça. Pas tant que ça par rapport peut-être à certains qui pensaient, notamment au plus haut sommet de l'État, que ça allait épurer, que ça allait réduire le nombre de promoteurs. Finalement, vu la crise qu'ils traversent, parce que quand l'année dernière ils ont perdu la moitié de leurs ventes et à nouveau 25% cette année, on aurait pu imaginer quelle entreprise peut résister à ça. Ils résistent, ils font le dos rond, on va dire, pour l'instant. La question, c'est jusqu'à quand?
Et puis c'est un peu moins vrai pour les constructeurs de maisons, d'un mot quand même.
Les constructeurs de maisons, ils ont quand même perdu aussi la moitié de leurs ventes l'année dernière. Ça va pas bien non plus, et on est à peu près sur une année glissante à 60 000 maisons, quand les belles années on en construisait du coup 120 000.
Oui, parce qu'on se souvient, pendant le Covid, c'était vraiment la vedette, la maison individuelle, et c'est le rêve des Français, de 75 à 80% des Français. Aujourd'hui, quand on interroge les professionnels, des maisons à 350-400 qui, il y a deux ans, partaient très rapidement. Aujourd'hui, comme on sait que le marché, c'est un marché acheteur, les gens prennent leur temps parce qu'ils savent aussi qu'ils ont plus de choix. Donc, c'est vrai que même la maison, c'est ça. Nous, c'est vrai qu'au Figaro, dès qu'on fait des articles, quel que soit le profil et l'actualité, c'est impressionnant les réactions, les inquiétudes que ça peut avoir.
Sur des articles sur quoi précisément?
Sur les maisons, la maison individuelle. L'avenir pour ces maisons, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de rêves. Il y a quelques semaines ou quelques mois, Gabriel Attal, Premier ministre, parlait du fameux rêve du pavillon à la française qu'on veut relancer, etc. etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, les gens ont envie de ça. Maintenant, quelle proposition, quelle solution les différents partis leur proposent, Ça, c'est...
C'est un super teasing qui nous fait, Guillaume, parce que justement, dans la deuxième partie d'émission, on va aborder, on va commencer à rentrer dans le dur de ce que nous proposent les politiques aujourd'hui, et on démarrera justement par tout ce qui pourrait impacter les acteurs au sens large du logement neuf. Donc, je vous propose de rester à l'écoute de la suite de nos débats.
Parfait timing pour partir en publicité. Vous restez avec nous. Quand vous revenez, Guillaume Erard du Figaro sera là, Céline Colletto de trouverunlogementneuf.com aussi, et puis Marie et moi. À tout de suite.